Il est tout juste midi sur France Culture. Bonjour à tous. Et bienvenue à La Grande Table, une émission réalisée par Philippe Baudouin, préparée avec Raphaël Bourgois, Jeanne Aléos, Clémence Marie, Boris Pinault et la collaboration de Coquelicot Vital. La Grande Table, c'est jusqu'à 13h30, deux parties qui entremêlent la culture et les idées. Et au milieu, le journal de 12h30 d'Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. L'armée tchadienne qui se déploie au Cameroun pour tenter de stopper les attaques de Boko Haram. Hier, les islamistes ont mené des raids meurtriers contre deux villages dans l'extrême nord du pays et pris plusieurs dizaines d'otages. Le Hezbollah, qui annonce que six de ses membres, dont un commandant, ont été tués hier par un raid de l'armée israélienne sur le plateau syrien du Golan, région où l'armée du régime de Bachar al-Assad affronte les rebelles. À moins d'un mois maintenant du sommet européen de Riga, qui sera consacré à la lutte contre le terrorisme et les combattants étrangers européens de retour de Syrie et d'Irak, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne sont réunis à Bruxelles pour tenter d'améliorer la coopération dans la lutte contre le terrorisme. On en parlera avec notre correspondant Pierre Benazé. Présentation des vœux de François Hollande aux acteurs de l'entreprise et de l'emploi. Le chef de l'État appelle les partenaires sociaux à être à la hauteur de la réaction des Français aux attentats qui ont ensanglanté Paris. Et puis, à la veille d'une séance de négociation qui s'annonce très tendue avec le patronat, les routiers poursuivent leur grève par des blocages de centres industriels et de dépôts pétroliers. L'invité du journal, Samia Ghali, qui est députée socialiste des Bouches-du-Rhône. La Grande Table commence donc, Caroline Brouet.
Avec une émission spéciale à l'occasion de cette journée spéciale qui lance une semaine spéciale de la Fabrique de l'Histoire par Emmanuel Laurentin. Il s'agit pour nous de nous demander comment nous en sommes arrivés là, comment ces jeunes Français ont pu basculer dans une telle violence, si la question religieuse explique tout ou si elle peut être expliquée et complétée par une lecture sociale de l'événement. Ça sera le sujet de nos deux parties. Donc aujourd'hui, à 12h55, nous nous demanderons s'il faut repenser l'intégration et qu'est-ce qu'on a raté avec le père Christian Delorme. Et pour l'instant, pour commencer, nous avons invité quelques artistes dont le travail depuis quelques années a trait de près ou de loin à toutes ces thématiques liées aux enfants de la République, aux jeunes, aux banlieues, à l'islam, à l'intégration, à la radicalisation, à l'école, à l'humiliation et à la culture. Est-ce que l'art peut servir à quelque chose? C'est la question qu'on pose dans cette première partie.
Je suis là pour malgré ça trouver avec toi des solutions.
Mais quelles solutions?
Des solutions pour t'obtenir des rendez-vous, un stage. Si, il y a des Noirs et des Arabes, comme tu dis, qui réussissent,
ouais,
qui
ouais,
trouvent.
Ouais.
Bah, faut que tu t'accroches, c'est tout.
C'est beau là comme ça? Ça va?
Ouais, c'est bien.
Ouais, c'est bien, c'est bien. Continue, tu peux toujours envoyer tous les CV que tu veux. Et bon courage. Déjà, laisse tomber quand tu t'appelles Rachida, l'ordinateur, elle te laisse sous l'union rouge. Il connaît pas. Mais Isabelle, il reconnaîtra ça, c'est mieux.
Laisse-le parler.
Ouais, laisse-moi parler. Une fille, c'est pas pareil, une fille. C'est normal.
Oh, ça suffit, Yaline.
Ouais, bien sûr, ça suffit. J'ai donné le maximum, moi. Je me suis donné à fond pour rien. Parce qu'il y a une chose que j'ai compris. C'est que c'est pipé. C'est pipé. Tu peux faire tous les efforts que tu veux. C'est pipé, d'avance. C'est des racistes. C'est tous des bâtards de racistes, ici. C'est une France de merde.
Et toi, t'es pas raciste, peut-être?
Si, si, je suis raciste. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'ils te le font devenir. Ils te font devenir raciste.
Ok, on est tous des racistes. Tu vas passer toute ta vie à répéter c'est des bâtards, c'est des racistes? Qu'est-ce que tu fais d'autre? Si tu penses que les recruteurs c'est des racistes, tu leur envoies quand même ton CV. Parce que si c'est des racistes, comme tu dis, c'est à eux de te discriminer. C'est pas à toi de le faire à leur place.
Tiens, regarde ce que j'en fais de ton CV, moi. Regarde.
Tu sors, oui.
Bien sûr que je me barre.
Bonjour Philippe Faucon. Philippe Faucon?
Oui, bonjour.
Bonjour. On vient d'entendre un extrait de votre film, La Désintégration, un film qui date de 2012 et qui raconte l'histoire d'Ali, ce jeune Français d'origine arabe, son endoctrinement, sa radicalisation. Le film est désormais en DVD. Bonjour Abdel Attaya.
Bonjour.
Et bienvenue également à La Grande Table. Vous êtes romancier, cinéaste. On vous doit notamment L'Armée du Salut. Et puis votre dernier roman vient tout juste de paraître aux éditions du Seuil. Il s'appelle Un pays pour mourir. Et nous sommes aussi avec nous au téléphone Kader Attia. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes artiste, plasticien, l'auteur d'une œuvre à la fois complexe et très politique, on va y revenir, autour de toutes les questions contemporaines qu'on voit surgir, ressurgir aujourd'hui, que ce soit la religion, l'identité, la frontière ou les différences culturelles. En 2012, votre exposition au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris s'intitulait « Construire, déconstruire, reconstruire le corps utopique ». Vous travaillez actuellement sur le thème de la réparation. On se souvient également d'une installation que vous aviez faite sur le thème du voile et de la prière qui s'intitulait « Ghost ». Et votre dernière exposition traitait entre autres du pillage du musée du Caire sous le titre « Arab Spring ». L'extrait qu'on vient d'entendre, Philippe Faucon, montre bien à quel point votre film « La désintégration » traite des sujets qui ont ressurgi depuis une dizaine de jours. C'est l'histoire d'Ali, français issu de l'immigration, bac pro en mécanique, frère et sœur totalement intégrés, mère aimante, lui jovial, aimable, serviable, gai, tendre, mais qui progressivement se voit refuser toutes ses demandes de stage. Et c'est là qu'il croise le chemin de Jamel. Jamel recrute parce qu'il est en train de lever une armée de martyrs qui se destinent à un attentat devant le siège de l'OTAN à Bruxelles. Et on voit bien ce Jamel jouer d'une faiblesse et d'une frustration, qu'elle soit sociale, économique ou psychologique, et couper peu à peu le recruter de tous ses repères. Comment regardez-vous aujourd'hui, rétrospectivement, la désintégration, Philippe Faucon, c'est-à-dire votre film ?
Eh bien... Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, justement, une chose que le personnage dit, c'est qu'il a le sentiment que les choses sont pipées. Et donc, il y a petit à petit, comme ça, un sentiment qui s'installe, qui est que l'égalité des chances, c'est un leurre. Et ce sentiment va s'amplifier au point que il va d'une certaine façon finir par mettre un point final lui-même à cette exclusion qu'il ressent. Comme le dit son professeur, c'est aux autres de t'exclure, c'est pas à toi de le faire toi-même. Donc c'est quelqu'un qui s'enferme comme ça, dans une espèce d'aigreur, dans une sorte d'autisme, qui fait que petit à petit, il ne va plus être réceptif qu'à un seul type de discours, qui est un discours qui est celui de cet endoctrineur et qui sait jouer de ce jeune garçon parce que lui les connaît par cœur. Et comme le dit ce personnage, à un autre moment du film, les jeunes, je les connais parce qu'il n'y a plus que moi qui leur parle. Plus personne ne le fait, leur prof ne leur parle plus, etc. Et donc, ce qui peut être très dangereux, c'est quand des gens comme ça qui sont enfermés dans une sorte de situation dans laquelle ils n'ont plus accès à grand chose, ne sont plus aux prises qu'avec un discours qui de ses frustrations et de ses aigreurs. Et donc dans les événements qui viennent d'arriver et le parcours de ces jeunes garçons qui en sont arrivés là. En effet, moi, j'ai l'impression de réentendre par moments. Je connais pas le détail de leur histoire, mais dans le peu que j'en connais, en effet, j'ai l'impression de réentendre des choses sur lesquelles on s'était penché à ce moment-là quand on a écrit ce scénario.
Est-ce que vous avez l'impression, Philippe Faucon, que votre film à parler, pour utiliser l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure. On s'interroge beaucoup ces jours-ci sur le rôle de l'école, mais des artistes comme vous, des créateurs, travaillent depuis longtemps sur tous ces sujets. Ils alertent à travers leurs œuvres. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez été entendu ou sinon écouté ?
Non, parce qu'à ce moment-là, ce film, ce sujet... ce qu'il évoque, c'était quelque chose qui faisait peur, et qu'on n'avait pas envie d'entendre. Alors on s'en débarrasse en disant, à ce moment-là, on pouvait s'en débarrasser. C'est du fantasme, c'est du... En particulier quand on... bien ces situations, parce qu'elles sont quelquefois très ignorées, à part les gens qui les vivent, les profs, les éducateurs et les gens qui sont concernés. Donc,
Philippe Faucon, je suis obligée de vous interrompre parce que votre téléphone saute, donc on va essayer de vous rappeler sur une ligne qui sera, j'espère, meilleure, et on vous reprend, si vous le voulez bien, dans quelques secondes. Abdelataya, est-ce que vous, dans votre œuvre littéraire, vous avez également fait un film, hein, L'Armée du Salut, qui revient sur votre parcours, notamment très personnel, du Maroc à la France, où vous vivez depuis 15 ans maintenant. Est-ce que vous travaillez toujours sur cette liberté, cette soif de liberté, cette soif d'ouverture d'esprit? Est-ce que vous aussi, vous avez eu l'impression que vous n'avez pas été lu par les gens qui avaient besoin de vous lire, d'une certaine façon ?
Je répondrai en tant qu'Abdelataya citoyen et personne, et non pas en tant qu'auteur, pour
D'accord.
l'instant. Parce que je me souviens très bien, quand je suis arrivé en France, en 98-99, ce choc que j'ai essayé d'intérioriser, de ne pas trop révéler, c'est-à-dire j'avais l'impression que c'était d'un coup une identité qui n'était pas la mienne et qu'on m'en revoyait tout le temps, c'est-à-dire maghrébin, arabe, musulman, et donc on m'en renvoyait comme ça des clichés, des idées fausses sur ce que je suis supposé être, et quand j'essayais de batailler... J'avais l'impression que c'était déjà, je ne vais pas dire condamné, mais c'est déjà des idées tellement ancrées dans l'imaginaire français et que je ne pouvais rien faire. Et je pense que ça m'a fallu, en tant que personne, hein, il m'a fallu aussi beaucoup, beaucoup de temps pour ne pas me laisser piéger aussi par tous ces clichés.
Enfermé, piégé,
c'est-à-dire ne pas donner, le discours, ne pas donner ce qu'on attend de moi. Par exemple, jusqu'à aujourd'hui, très souvent, on me dit, pour des gens qui ne me connaissent pas, que je rencontre pour la première fois, « Ah, vous parlez très bien français ». Je me rappelle qu'au début, ça me faisait plaisir, parce que je venais de débarquer du Maroc et que je viens d'un milieu très pauvre au Maroc. L'idée de parler bien français était un but que j'avais depuis des années. Et je me suis rendu compte au fil des temps, au fil de ma présence en France, que c'était en fait quelque chose de terrible. Ce n'était pas un compliment. Ça veut dire quoi que moi, je parlais bien français, et que les autres, que ceux qui ne le maîtrisaient pas, disons, aussi bien que moi, ça veut dire quoi? Il y avait quelque chose de discriminatoire, mais qui ne venait pas des gens qui étaient mauvais. C'était pas des Français mauvais. C'était quelque chose qui est installé là et qu'on est obligé. Il faut dire les choses, et qu'on est obligé quand on arrive, en tant qu'immigré, moi, africain, arabe, musulman, de me soumettre, mais de régler dans un autre espace, parce que il y a très peu de gens à qui on peut faire comprendre ça. Et je pense qu'avec le temps, malheureusement pour certains, et là je ne parle plus de moi, ils peuvent se fatiguer de cela, d'avoir à convaincre tout le temps qu'ils ne sont pas ces clichés et ces fausses idées qu'on a sur eux.
Kader Attia, alors vous, c'est encore différent puisque vous êtes né à Dugny, dans la banlieue nord de Paris, en Seine-Saint-Denis. Vos parents sont d'origine algérienne. Vous avez grandi à Garges-lès-Gonesse, donc vous êtes français. Est-ce que ce que raconte Abdelataya venant du Maroc en France, vous l'avez ressenti ou pas du tout?
Alors d'abord, juste une précision, je suis français et algérien puisque j'ai le passeport et la nationalité algérienne.
Double.
Et le passeport et la nationalité française. Et j'ai eu dans ma jeunesse une période assez longue en Algérie, en fait. Une scolarité juste avant la période de l'adolescence. Et ça joue beaucoup, en fait. Parce que... Vous pouvez répéter la question, par contre, je voulais juste préciser ça.
Oui, je voulais juste vous demander si, en entendant ce que disait Abdelataya, une sorte d'enfermement, d'un sentiment de piège qui se refermait sur lui alors qu'il venait de l'étranger, vous avez pu ressentir une forme de stigmatisation alors même que vous êtes français? Et algérien, d'accord, mais quand même né en France.
Il y a toujours eu, moi je crois, dans la société française, et je le vois aujourd'hui en voyageant dans d'autres pays européens, une assez endémique, je dirais, forme de stigmatisation de l'autre. On dit arabe alors que la plupart des gens d'Afrique du Nord sont soit berbères, soit arabes ou berbères.
on dit les Noirs, alors que je veux dire l'Afrique entre les Éthiopiens et les Sénégalais et les Brazzavillois. Il y a des différences énormes. Une sorte de création d'invention de l'autre, comme ça, dans la société française, qui, je crois que l'exemple le plus flagrant, c'est lorsque vous êtes amené à traverser les douanes, avec justement, alors pour le coup, en utilisant votre passeport français, parce que c'est malheureusement ce qui vous facilite le passage, toujours une attitude de la part du douanier, suspicieuse, on regarde le passeport dans tous les sens, on le regarde à travers la lumière pour voir si c'est un vrai, etc. Et quand vous êtes avec votre compagne qui, elle, est pure française, en tout cas du nord de la France, avec un physique bien européen, on ne regarde même pas son passeport. Y a comme ça une stigmatisation. Moi, j'ai surtout envie de dire qu'il y a eu une invention de l'autre. Et c'est ça qui est dramatique, de la même manière que l'Occident, comme disait Edouard Saïd, a orientalisé l'Orient. Il a inventé l'Orient, en fait. Donc oui, ça a évidemment à voir avec ce qui se passe aujourd'hui et qui ne me surprend pas d'une certaine manière.
Alors nous nous demandons aujourd'hui si les voix des artistes qui travaillent sur tous ces sujets sont restées inaudibles. Certains d'entre eux, parmi eux les rappeurs, ont exprimé des choses. En particulier, je voudrais vous en faire écouter une, en tous les cas un extrait. Le retour en 2007, signé Idir et Cynic.
Ici Paris, loin de mes rêves, c'est la dèche. Ici bas il fait trop froid, hier encore j'ai vu la neige. Mais comment te dire que je n'ai pas la rage. À l'école mes camarades m'appellent Bougnoulou Salarabe. Pardonne-moi d'être grossier, mais c'est tous des cons. Pour eux, si t'as la barbe un peu trop longue, c'est que tu poses des bombes. Je voulais du taf mais j'en trouve pas et j'en chiale. Car Momo et Mustapha ne font pas le poids contre Jean-Charles. Parce que la France nous a déçus de par son attitude. Liberté, égalité, ingratitude. Les gens me font comprendre que je ne suis pas d'ici. Que ma couleur n'est pas la leur, que Paris c'est pas Tizi. Alors forcément tu réfléchis et tu stagnes. Moi je préfère le plaid ici, Le Pen est une star. Étranger comme ils disent, on veut rentrer comme ils disent. Respectable comme un kabyle comme ils disent.
Abdellah Taïa, dans votre dernier roman, Un pays pour mourir, qui vient tout juste de sortir, vous avez plusieurs héros. Zahira, qui est une prostituée marocaine, qui est à Barbès, et autour d'elle gravitent quelques personnages avec qui la parole se partage. Et tous ces personnages, Aziz l'Algérien, Mojtaba l'Iranien, sont venus à Paris, mus par un désir de liberté et voyant ce pays comme un pays accueillant, comme un pays beau. Et en fait, ils mènent des vies de marginaux, de laissés pour compte. J'aimerais vous poser une question quant à la place de la littérature. Parce que dans un article que vous avez signé pour Le Monde des Livres la semaine dernière, vous racontez que dans votre famille, il se passe quelque chose en ce moment qui a trait à ce qui se passe aujourd'hui. C'est que vous avez un cousin qui s'est radicalisé, que votre mère vous a demandé de revenir au Maroc, dans la famille, comme un conseil de famille, et qu'elle vous a dit « prends tes livres, fais-lui lire tes livres ». Est-ce que vous pensez vraiment, Abdellah Taïa, que la littérature sert à quelque chose? Est-ce que c'est un antidote?
Bon, en tout cas, ce que je remarque, quand j'étais petit au Maroc, à Salé, donc j'étais à côté de Rabat, dans cette famille pauvre, les années 70 et 80, il y avait les livres. Ils étaient là, présents physiquement, comme des objets qui étaient familiers. 20 ans, 25 ans plus tard, il n'y a plus de livres. Les familles, comme mes frères et sœurs ont constitué, et les maisons où ils habitent, il n'y a plus de livres, ils ne sont plus présents. Pour ma mère, qui était analphabète et qui venait du bled, pour elle, elle avait misé sur ça, cette idée qu'il y a quelque chose dans les livres, d'une manière intuitive, hein, qui pouvait à la fois sauver la famille économiquement, sauver la famille de la pauvreté, mais en même temps sauver tout court ses enfants de l'oppression politique qui vient du pouvoir au Maroc. Quand mon neveu, donc le fils d'une de mes sœurs, en l'espace de deux, trois mois, est devenu, est passé d'un gentil adolescent à un monstre, mais un monstre avec lequel il vivait tous les jours, qui leur imposait, par exemple, il leur mettait cette chaîne-là, vous ne la regardez pas, celle-là, vous avez le droit de la regarder. Il prenait des ciseaux, il déchirait tous les vêtements de ses sœurs, où il y avait, par exemple, on pouvait voir le bras ou bien le cou, des choses comme ça. C'est-à-dire une forme de terreur absolue. Et quand ma mère, par exemple, elle lui venait, il lui disait, tu n'as pas bien fait la prière ce matin, voilà comment il faut faire. C'est-à-dire qu'il voulait tout réécrire de la vie de sa famille et de ma famille, de ma mère. Et ma mère, je pense, peut-être qu'elle pensait que être à Paris, c'est quelque chose de grand et de beau, et que ça a encore de la valeur et de l'importance. Et se disait, celui qui est à Paris va venir parler à ce neveu qui est en train de partir à la dérive. Elle m'a dit effectivement d'amener mes livres avec moi. Bon, elle savait que j'étais homosexuel. Elle n'avait pas. Elle avait aussi des problèmes avec cette homosexualité. C'est pas quelque chose que dans la société elle pouvait assumer complètement. Peut-être dans son fort intérieur elle l'acceptait, mais l'assumait complètement. Et c'est cela qui était paradoxal totalement, c'est qu'elle me demandait, moi, l'homosexuel, d'amener mes livres ou les questions d'homosexualité pour parler à ce neveu qui était en train de sombrer, de faire sombrer tout le monde dans l'islamisme. Évidemment, on n'a rien pu faire. La seule chose que j'ai réussi à lui faire entendre, à lui rappeler, c'est que quand il était petit, pendant des années, je lui lisais Tintin. Et donc, je lui racontais les personnages, Capitaine Haddock, Milhaud, tous les autres. Et on s'est mis à parler de Tintin et il se souvenait de tout.
Philippe Faucon, vous continuez, vous aussi, votre travail sur la question de l'intégration. Vous venez de tourner Fatima, l'histoire d'une femme algérienne qui fait de gros efforts pour que ses deux filles ne deviennent pas femmes de ménage comme elle, et qu'elles puissent être fortes dans la société dans laquelle elles vivent. Et vous avez tourné avec des jeunes filles amateurs de la troisième et quatrième génération. Que vous disent-elles, ces jeunes filles avec qui vous avez tourné? Et sentez-vous une difficulté ou un gouffre entre les générations?
Alors, en réalité, ce ne sont pas des jeunes filles amateurs. Enfin, concernant les deux rôles des filles, ce sont toutes les deux des jeunes filles qui se destinent à être comédiennes. Mais étant donné leur âge, effectivement, elles ont très peu...
Des comédiennes en herbe, disons.
voire pas du tout joué jusqu'à maintenant. Alors, ceci dit, il y en a une qui sort du Conservatoire National de Paris. Et l'autre qui est une collégienne, qui est très jeune, donc elle a 15 ans. C'est une jeune fille, elle en particulier, qui est une jeune fille d'une grande énergie, avec un regard très vif. Et effectivement, elle est quelquefois en butte à des regards sur elle et des façons de l'identifier qu'elle n'accepte pas, et donc elle réagit très vivement.
Et vous pensez vraiment que le cinéma peut aider à quelque chose dans un travail de réparation qui est cher à Kader Attia, à qui je vais donner la parole dans un instant?
Oui, le cinéma, la littérature, quand on y a accès, ça c'est encore une autre question. De toute façon, c'est une possibilité d'ouverture, de découverte, d'épanouissement, de réflexion, qui est en plus quelquefois lié au plaisir, etc. Donc ça peut jouer un rôle important.
Kader Attia,
parce que L'intégrisme, sous quelque forme que d'où qu'il vienne, c'est une pensée qui se schématise effectivement, qui est binaire. Il y a les bons, les mauvais, le bien, le mal. Et donc c'est une façon, c'est une sclérose, c'est un repli, un enfermement. Et c'est ça qui est dangereux, parce que c'est une séparation entre les gens et entre les possibilités de rencontre et d'enrichissement.
Kader Attia, je le disais tout à l'heure, sur la notion de réparation. Est-ce que les événements des derniers jours confirment l'importance de cette notion de réparation ?
Absolument. Et alors, je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport au morceau que vous avez passé tout à l'heure avec Idir. Il y a eu, dans toute l'histoire du hip-hop qui est signé par des jeunes issus de l'immigration des cités en France, entre autres, parce que le hip-hop français a toujours été beaucoup plus politique que le hip-hop américain. Il y a eu plein de morceaux il y a eu un morceau, je me souviens, qui s'appelait « Je suis l'arabe » d'un certain Yazid dans les années 90, qui répondait exactement à la question de tout à l'heure, c'est-à-dire à cette invention de l'autre, de l'arabe, après l'arabe couteau entre les dents, l'arabe des cités, et aujourd'hui l'islamisme radical des cités. Donc, si vous voulez, depuis plusieurs années, sans parfois même le nommer, j'ai travaillé sur cette question fondamentale et extrêmement importante de la réparation liée à ce qui structure la société française et en général même les sociétés européennes, notamment sur leur histoire du 19e et du 20e siècle, à savoir la colonisation. Et en fait, s'il y a un pays qui m'a toujours surpris par rapport à cette question de la colonisation, c'est la France, en fait. Parce que vous en rendez pas compte, vous vivez en France. Mais lorsqu'on est à l'extérieur, ce qui est mon cas, j'habite en Allemagne, on est abasourdi par le déni, en fait, de la société française à l'égard de l'héritage du colonialisme, et notamment quant à l'absence absolument totale de politique postcoloniale, en fait. Si vous voulez, lorsque vous arrivez de Heathrow à la gare du Nord ou de Bruxelles à la gare du Nord, la colonisation, vous la prenez en pleine face. Or, pendant des années, et plusieurs artistes, je pense d'ailleurs pas forcément à mes œuvres, mais à des œuvres d'autres artistes, la question de la colonisation et sa contemporanéisation, en fait, pour ne pas rester dans la guerre d'Algérie et les images en noir et blanc, toutes les problématiques liées à ce que veut dire, à l'aspect unique, en fait, de ce système de pensée qu'est la colonisation, est quelque chose qui a énormément de mal à être, si vous voulez, accepter sur la place publique, dans le débat public en France, sans que ça devienne tout de suite soit « Oh, la guerre d'Algérie encore !» Ouh là là, la colonisation, mais c'est fini, ça, ils ont eu leur indépendance. Ou au contraire.
Je suis obligée de vous arrêter, Kader Attia, parce qu'on arrive au terme de cette première partie qui est vraiment trop courte aujourd'hui, mais il faut que nous passions à la chronique de Thibaut Sardier. Nous prolongerons, si vous le voulez bien, dans la dernière partie avec Christian Delorme. Restez avec nous au téléphone, j'espère pouvoir vous reprendre tout à l'heure. Bonjour Thibaut Sardi, on est déjà en retard, il est 12h27.
Mais on va rester dans le thème de cette journée spéciale avec du théâtre, une pièce qui a déjà beaucoup tourné en France et qu'on pourra encore voir du 27 janvier, c'est-à-dire mardi prochain, jusqu'au 8 février au Théâtre National de Strasbourg. Une pièce allemande que le metteur en scène français Mathieu Roy a décidé de monter comme une évidence après l'affaire Mera, qui résonne aujourd'hui de façon bien particulière, avec au départ une question simple: que se passe-t-il quand un ado, Benjamin, se radicalise du point de vue religieux, et ce quelle que soit la religion, puisqu'il s'agit ici d'un jeune catholique. Et bien, ce jeune catholique, il fait résonner des mots lourds de sens tout au long de la pièce, à commencer par « tu ne me comprends pas », reproche adressé à sa mère, qui pourrait aussi s'appliquer aux autres personnages, les professeurs, le proviseur, les amis, des mots forts qui appellent à la responsabilité de chacun, comme me l'a dit ce matin Mathieu Roy.
Cette pièce, elle pose aussi la question de la responsabilité des adultes. Qu'est-ce qu'on fait avec des adolescents qui sont comme ça laissés sur le côté peut-être, et qui trouvent dans la Bible, dans un livre saint, les réponses à toutes les problématiques qu'ils retrouvent dans le monde quotidien? Et c'est aussi pour ça que la pièce est intéressante de ce point de vue-là, c'est qu'elle est sans concession sur les adultes et qu'elle nous renvoie chacun à notre responsabilité et à notre devoir d'agir dans cette société face à cette montée de l'extrémisme et comment trouver des arguments qui permettent de contrer ou de ramener ces jeunes adolescents à la dérive, à la raison.
Une dérive pour motif religieux, autre mot marquant de Benjamin. Sauf que vouloir utiliser la religion contre lui est peut-être une erreur, c'est en tout cas ce que tente la prof de bio au nom juif d'Erika Roth en répondant à des sentences bibliques par d'autres phrases extraites du Livre Saint.
Quand elle lui rétorque que le salut vient des juifs, la seule réponse qu'il va avoir à cet argument, qui est un argument effectivement vrai, qui est sorti de la Bible, c'est qu'elle ment. Donc à partir de là, il n'y a plus d'échange possible. Et ça montre bien aussi comment est-ce qu'aussi une citation sortie de son contexte, prise hors contexte, on peut lui faire dire tout et son contraire. Et c'est vrai que c'est troublant de voir que la seule personne qui va tenter, le seul adulte qui va tenter de s'interposer sur son chemin, va finalement être abandonné.
Le message, nous avons tous un rôle à jouer, c'est en tout cas la lecture que fait Mathieu Roy des événements récents, à écouter en bonus sur le site de la Grande Table avant de retrouver la pièce Martyr au Théâtre National de Strasbourg la semaine prochaine et la suivante, et tenter de répondre Caroline à un problème d'autant plus complexe que ses enfants perdus vivent dans un monde imaginaire.
Merci Thibault Sardier, merci à vous Philippe Faucon, Abdelataya et Kader Attia. Si vous le voulez bien, restez avec nous. En deuxième partie, nous partirons de cette question de la responsabilité des adultes. Nous poserons cette question au père Christian Delorme qui vient d'entrer dans le studio. Il est 12h30.